Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Et on retrouve nos trois experts du jour. Laurence Daziano, maître de conférence à Sciences Po, Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode, et Ludovic Subran, le chef économiste de Allianz. Nous avons consacré la première partie de cette émission aux problématiques françaises et on fait la transition, justement, puisque Denis parlait des conditions de financement des entreprises, avec la hausse des taux de la BCE, Ludovic Subran. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que c'est une bonne mesure ? Moi, j'ai l'impression que il y a rarement eu des décisions qui généraient autant d'effets négatifs que d'effets positifs. Et puis alors surtout, puisque ça va être quand même notre thème de cette deuxième partie, là, ce fameux risque de fragmentation, c'est-à-dire de diffusion inégale, différente des décisions de politique monétaire, fragmentation quand on voit les rythmes d'inflation différents entre tous les pays de l'euro. Est-ce que c'est ça le vrai danger aujourd'hui ?
Bah oui, c'est un danger. Il y a qu'à se rappeler 2012, on était quand même dans une situation extrêmement difficile pour la zone euro. Donc le but, c'est d'éviter à tout prix de répéter les erreurs de 2012 et donc d'avoir un risque dit de redénomination. C'est-à-dire que les investisseurs parient sur la sortie de la Grèce, de l'Italie, de la zone euro. Et donc cet outil, il est principalement performatif. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui va résoudre les écarts de taux de crédit, mais il va en revanche calmer les ardeurs en disant, vous inquiétez pas, si d'aventure, à un moment donné, vous cherchez à spéculer sur la sortie de l'Italie, nous on achète tout ce qu'il
c'est
faut.
C'est la dissuasion nucléaire, massive. Monétaire massive.
Exactement. Donc la décision d'hier, donc il y a la hausse de taux, 50 points de base, le consensus était plutôt à 25 points de base. Il faut se dire que la BCE le fait pas parce qu'il y a de la surchauffe en Europe, comme la Fed monte ses taux aux États-Unis parce qu'il y a la surchauffe. Elle le fait en anticipation de la surchauffe. Elle le fait pour des questions de crédibilité. Elle est face à un trilemme, si vous voulez. La stabilité des prix, la stabilité financière et sa crédibilité. Là, elle choisit de faire une hausse de taux parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire face à l'inflation à 8%, 4% d'inflation sous-jacente. Ça lui permet de sortir de l'expérimentation des 10 dernières années, ou du moins des 8 dernières années, de taux d'intérêt négatifs. Ça, c'est quand même une grande première. Je pense que l'histoire nous dira si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée en termes d'inflation des actifs. Et après, la vraie question, et c'est surtout ça, c'est là, la montée de 50, elle est à zéro, mais jusqu'où elle peut monter ? D'où, quels sont les risques de récession ? Première question. Est-ce qu'elle va pouvoir monter avant qu'on soit de nouveau en récession et qu'elle fasse acte de politique monétaire accommodante pour aider ? Et puis, la deuxième question, c'est à quelle vitesse elle monte ? Donc là, par exemple, les marchés s'attendent déjà à ce qu'elle refasse 60 points de base en septembre. Ça veut dire peut-être 75 points de base, ce qui serait beaucoup. Rappelez-vous, la Fed, on s'attend à 50, elle fait 75, puis après, maintenant, on s'attend à 100. Donc, il y a quand même cette idée de, on pédale un peu rapidement parce que on était peut-être un peu en retard. Donc, 50 points de base, c'est pas trop grave. Il y a pas eu les criquets, les inondations. Enfin, vous voyez, on nous promettait quand même. voilà. Donc, c'est pas trop grave d'avoir des taux d'intérêt à zéro. Mais la vraie question, c'est jusqu'où. Nous, on pense qu'elle va s'arrêter autour de l'automne. Je pense que ça va être très difficile, à part la hausse de taux de septembre et peut-être une autre, de refaire des hausses de taux parce qu'on a la croissance qui faiblit. Sur l'outil anti-fragmentation. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'avoir annoncé l'outil. Les marchés n'ont pas hyper bien réagi, mais quand même, les spreads se sont pas, les écarts de taux de crédit se sont pas complètement évasés. Le vrai sujet de l'outil, c'est le suivant. On avait déjà un outil qui était l'OMT, vous savez, le MES qui aidait les pays avec des très fortes conditionnalités. Ça, c'est pas assez gros et c'est trop rigide. Donc, l'outil qu'on fait là, il est un peu plus gros. C'est-à-dire, l'idée, c'est de mettre ce qui devrait être réinvesti du programme de la pandémie, donc à peu près 200 milliards, et pas trop le conditionner. Ça, c'est dans la théorie. En revanche, hier, on a eu des surprises parce que, par exemple, ils nous disent « Ah ben, en fait, on va quand même le conditionner un peu et on va le conditionner à la trajectoire soutenable de la dette publique. On va le conditionner au fait que le déficit public... » Et là, on se dit «
Mais oui, parce
attends,
que Ludovic, ça peut pas être complètement discrétionnaire.
Je pense que c'est mieux pour éviter le pacte de fausse entre politique monétaire et budgétaire. Mais ça peut faire débat. C'est-à-dire jusqu'où on doit aller dans le détail et quel type de conditions on doit mettre. Moi, ce que je peux vous dire, que si le but, c'est sauver le soldat Italie, quand je lis les points qui sont faits, il n'y a aucun des critères qui sont ex ante remplis par l'Italie. Alors qu'on sait que l'outil, il est quand même fait pour, et vous voyez la crise qu'on a aujourd'hui en Italie, il est fait pour éviter le coup de chaud sur les écarts de taux de crédit italiens. Donc c'est assez intéressant d'avoir, ils ont peut-être dit pas assez sur certains aspects, ils sont restés très opaques sur l'implémentation. Et à côté, ils ont voulu absolument faire, oh là là, on va quand même mettre des conditions, et puis tant qu'à faire, mettons-les sur des sujets budgétaires. Alors que, un, les pays qui doivent être aidés sont très loin de ces critères budgétaires. Et deux, la Commission européenne est aux abonnés absents sur la réforme de ses règles budgétaires. C'est-à-dire, le président Macron veut changer les traités, ça n'arrivera pas. Et donc la question, c'est comment on interprète les traités, comment on individualise les trajectoires de consolidation des finances publiques pour permettre, à horizon 2023, d'avoir quelque chose où on n'est pas sur 28 pays, on n'en a pas 25 qui ne sont pas dans les clous. Parce que c'est un peu ce qu'on va avoir en 2023.
Laurence Daziano, cette hétérogénéité croissante des taux d'inflation, des performances entre pays européens, ça vous inquiète quand même? Ça fragilise l'Europe?
Oui, alors, mais même au-delà de l'Europe, je ne sais pas si on passe tout de suite au monde, bien sûr que ça va fragiliser l'équilibre européen. Je suis un petit peu comme Ludovic, je me dis qu'augmenter les taux de 50 points de base, on n'est plus dans des taux négatifs, on revient à des taux, alors là on est à zéro. J'ai toujours un petit peu de mal avec le taux négatif, donc on commence à revenir dans des schémas économiques qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'entre l'augmentation des taux, alors là, il y a la BCE, mais il y a aussi eu la Fed avant et la Fed après. Le ralentissement de la croissance chinoise, quand même le poids des sanctions russes. On voit bien quand même qu'on est rentré dans une période où beaucoup plus d'incertitudes, notamment pour 2023. Et c'est le FMI qui dit, attention, récession 2023. Et c'est vrai que le risque de récession mondiale en 2023, la crise européenne et notamment la crise italienne, là, elle arrive quand même au mauvais moment.
Bah, allons-y sur le risque de récession. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui en termes de choc potentiel ou bien en termes de fragilité? Quels sont les pays, par exemple, les plus vulnérables et ceux qui s'en tirent plutôt bien?
Alors, on vient de le dire, un des premiers chocs, c'est l'augmentation des taux, parce que ça, notamment dans les pays émergents, ça renchérit beaucoup l'argent. Vous avez l'inflation. L'inflation, il y a eu un rapport du PNUD, le programme des Nations Unies sur le développement, qui a montré que là, l'inflation avait entraîné des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté, un peu plus de 70 millions à date. La pauvreté, c'est quand on a moins de $1,90 par jour pour vivre par personne. Et quand vous avez l'augmentation de la pauvreté, vous avez les troubles sociaux. Et on l'a vu au Sri Lanka. Le Sri Lanka, ça a commencé par une crise économique qui est devenue une crise politique. Et là, le Sri Lanka, c'est l'exemple même de ce qui va se passer dans les pays émergents. Augmentation des taux d'intérêt, augmentation de l'inflation. Vous avez des pays comme le Pakistan, le Bangladesh, qui là sont dans des situations qui sont très difficiles économiquement. Alors, on n'en parle pas parce qu'ils sont loin. Le Bangladesh, c'est un peu plus de 100 millions d'habitants. Le Pakistan, c'est un peu plus de 240 millions d'habitants. Donc, ce sont quand même des pays qui commencent à être lourds. Et puis, vous avez cette grosse inconnue qui est la Chine. La Chine a annoncé un taux de croissance officiel de 0,4% au deuxième trimestre. Donc, vous dites que si le taux officiel est à 0,4, bon, la Chine est il est négatif en réalité. Donc, une Chine qui n'atteindra pas ses objectifs de 5,5% de croissance en 2022. Et puis, cette politique de Covid zéro, aujourd'hui en Chine, vous avez un peu plus de 40 villes qui sont encore sous confinement. Vous avez plus de 260 millions de personnes en Chine qui sont sous confinement. Ça fait juste 4 fois la population française qui est encore confinée. Ça fait à peu près 20% de l'économie chinoise qui est confinée. Donc, quand vous avez un pays qui tire, 20-25% de la croissance mondiale, qui est déjà amputé lui-même à 20%, qui n'arrive pas avec sa politique de Covid remettre les machines en route, vous dites que ça va pas être bon pour tout le monde. Et puis vous avez le dernier gros facteur pour moi qui est la Russie, avec les sanctions contre la Russie. Le problème que je vois, c'est qu'il n'y a quand même que les Européens à appliquer les sanctions qui sont bypassées de partout. Le commerce extérieur russe n'a jamais été aussi haut. Ils ont un surplus qui est qui n'ont jamais eu jusqu'ici. Le rouble s'est beaucoup apprécié. Le rouble est cher. Et on ne voit pas très bien comment on va se sortir de... Voilà, on fait un bloc et on va revenir... Là, c'est là qu'on revient sur la question énergétique, c'est qu'on fait un bloc contre la Russie. C'est très facile de mettre des sanctions contre un pays, surtout que là, elles s'aggravent régulièrement. Ça va être beaucoup plus difficile de les retirer. Et l'impact qu'il y aura, c'est sur les Européens. Parce que quand les Russes peuvent plus vendre leur pétrole aux Européens, ils les vendent aux Indiens, qui raffinent. Et qui revendent le gazole raffiné aux Européens, parce que les Européens n'importent plus directement de Russie. Donc, et les Indiens font un beau profit sur le sujet. Donc, la zone euro, avec tous les éléments qu'on vient de dire, elle est vraiment fragilisée.
Est-ce que l'Europe, c'est encore l'idiot du village global différent, finalement?
Je pense que ça peut être aller un peu vite en besogne de le dire.
C'est l'expression d'Hubert Védrine, hein, bien entendu.
Mais peut-être pour compléter sur la Russie, les sanctions, effectivement, on voit bien qu'elles ont un impact immédiat, qui est le gonflement de l'excédent commercial russe, qui est absolument pharaonique. Mais il y a aussi une autre conséquence, c'est les blocages de production très forts qu'il existe en Russie. Quand vous avez une production industrielle qui recule fortement en Russie, quand vous avez la production de véhicules qui est 97% en dessous de son niveau d'il y a un an en Russie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences aux sanctions et qu'on ne vient pas bloquer en fait l'outil de production russe. La question, c'est exactement ce qu'évoque Laurence. On le voit en termes de diffusion du pétrole qui passe par l'Inde et puis ensuite nous rachetons le pétrole qui est raffiné par l'Inde. Ouais, super. Mais c'est aussi la substitution qui se met en place progressivement dans les canaux commerciaux. C'est-à-dire que plus les sanctions durent, moins elles sont efficaces parce que les Chinois font la queue à Moscou pour aller vendre leurs produits en substitution de produits qui étaient auparavant achetés par les Européens, parce que ça devient simplement des produits de nécessité fondamentale pour l'économie russe. Donc c'est vrai que les sanctions sont efficaces par le blocage qu'elles font de la production russe, mais est-ce qu'elles vont mordre suffisamment vite et suffisamment profondément pour faire en sorte que l'outil, cette fois-ci pas seulement de production, mais l'outil militaire russe se trouve bloqué dans sa capacité à produire.
J'ajouterais que même si elles mordent, et elles vont commencer à mordre effectivement parce qu'il commence à y avoir des pénuries, notamment de produits technologiques, parce qu'il va commencer à y avoir du chômage, les entreprises occidentales qui se sont retirées ont payé un certain temps les salaires, mais au bout d'un moment, elles vont s'arrêter, donc il va y avoir du chômage. Néanmoins, la population russe est également extrêmement résiliente, et puis surtout le politique prime sur l'économie en Russie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Puisque le politique prime et que l'économie Poutine, c'est pas grave, il y a une crise, voilà. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour la Russie, et ça aura un impact, oui.
Ludovic Subran, est-ce qu'on va vers une récession qui va concerner qui?
Je crois qu'on est déjà dans quelque chose qui ressemble à une récession dans les pays industriels européens, parce qu'ils ont eu, au début d'année, ils ont eu les deux chocs, Covid et Russie. Je pense que ce que dit Laurence est très important sur les émergents, on n'en parle pas assez, mais ils ont quand même la double peine avec la Chine en dépression économique, on va dire, parce que la Chine a eu, bien sûr, zéro Covid, mais elle a aussi Evergrande. Hein. C'était comme une crise de 2012 pour la Chine. Hein. C'est une crise du real estate, de l'immobilier. Donc la Chine ne croit pas. Et puis, ils ont des conditions monétaires et financières qui se tendent très fortement, parce que eux, les taux d'intérêt de la Fed, ils le sentent passer.
Ah, c'est le scénario noir, c'est-à-dire le dollar qui monte, la hausse des taux de la Fed, pas vraiment remis de la crise sanitaire.
Ça, c'est hyper important, je pense qu'on ne le dit pas assez. Oui. En Amérique latine, par exemple, les gros pays d'Amérique latine ne sont toujours pas au niveau d'avant-crise sur leur PIB. Nous, on a parlé beaucoup du fait que l'Europe était revenue à son niveau d'avant-crise. En Amérique latine, les gros pays, le Mexique, le Brésil, tout ça, n'est toujours pas à son niveau d'avant-crise. Donc, il y a quand même des pays émergents qui sont en situation difficile. Le Sri Lanka, c'est très particulier, hein, puisque le coût de financement de leur dette, le service de leur dette, c'est 56% de leur budget. Donc, en fait, c'était suicidaire, exactement. Donc là, il faut en effet faire la liste. Laurence a parlé de Pakistan, Bangladesh. Nous, on a regardé aussi les risques sur la crise alimentaire, tout ça. C'est beaucoup des pays du monde arabe, de l'Asie du Sud. Et après, quelques pays d'Amérique latine ou d'Afrique qui sont concernés. Et ensuite, la grande question que tout le monde se pose quand même, hein, c'est le risque de récession aux États-Unis. C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis, parce que tout le monde en parle, 60% des économistes interrogés aux États-Unis pensent qu'il y a une récession aux États-Unis en 2023. Et là, moi, je dis, comme en France, comme dans pas mal de pays du G7, il y a des risques de récession, mais il y a quand même énormément de poches de résilience. Denis parlait de la trésorerie des entreprises, on peut regarder la surépargne Covid, etc. La vraie question qu'on doit se poser, c'est même si on n'avait pas de récession très forte, ou si on en a une, je pense qu'on est dans un moment de tri. C'est-à-dire que on s'en fout de la magnitude de la récession. Enfin, on s'en fout pas parce que malheureusement, plus elle est forte, plus il y a de gens au chômage.
Mais en gros, moins 0,1, c'est les mêmes. Moins 0,3, voilà.
Voilà. En revanche, je pense que c'est un moment de sélection très fort entre le bon, la brute et le truand. C'est-à-dire que on va regarder dans les entreprises, par exemple, on voit un retour des faillites, un peu de normalisation du risque de crédit. On le voit d'ailleurs sur le taux auquel empruntent les entreprises dites high yield, celles qui sont pas très, très, qui ont pas des très bons fondamentaux. On va voir, en effet, des ménages plus affectés, des secteurs plus affectés. La construction, le transport, la distribution. Et donc c'est ça qui je pense qu'il faut se rappeler ça, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, on a essayé d'éviter récession, faillite, chômage, président de la République, mars 2020, qui nous explique qu'il n'y aura pas de faillite. Là, on a plus de dettes, plus d'inflation, et je pense qu'on a de nouveau un petit peu plus de sélectivité, de discrimination sur les agents économiques qui ont accumulé les vulnérabilités. Cette récession, elle va être, à mon avis, elle va avoir ce goût-là, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher les points de faiblesse relatifs des pays, des
darwiniens, enfin. Quoi.
C'est très sélectiviste, ouais. Et donc c'est pour ça que l'État devrait se concentrer sur aider ceux qui pensent qu'il faut qu'il aide, ça c'est pour les ménages, que pour les entreprises, il faut regarder vraiment avec qui on commerce. Et au niveau des pays, c'est le grand retour du risque pays. C'est-à-dire, il faut, quand on est une entreprise internationale, c'est plus 0,1, plus 0,3, c'est plus 20, moins 10. Et donc, il faut se préparer, il faut mettre en place la bonne veille pour essayer de se préparer.
Mais est-ce que vous qui auscultez en permanence les circuits de production mondiaux, etc., cette désorganisation des chaînes de valeur, microprocesseurs, matières premières, fret, etc., est-ce que vous voyez ça s'estomper progressivement?
Je ne sais pas ce qu'on pense, Denis. Nous, on a, par exemple, montré qu'il y avait maintenant du surstockage dans plein de secteurs. C'est-à-dire qu'on commence à voir le retour de bâton. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des pénuries pendant très longtemps et maintenant les carnets de commandes se tarissent un peu. Et en revanche, les gens continuent de recevoir les intrants qu'ils avaient commandés. Ils ne peuvent plus annuler parce que sinon ils payent des pénalités. Et donc on va arriver plutôt dans la situation inverse. La Chine se rouvre, même si ce n'est pas encore tout à fait fait. Et du coup, il y a un effet accordéon. Et donc on a trop de stocks. Et ça, pour les besoins en fonds de roulement des entreprises, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que vous faites de tous ces stocks? Comment vous les épongez? Comment vous les monétisez? Alors certaines entreprises sont très contentes parce qu'elles ont acheté des stocks en dollars à un moment où l'euro était un peu plus fort. Donc il y a plein d'effets, mais moi je trouve qu'on a une normalisation des effets désorganisants, je voudrais dire de ce qui s'est passé en Chine. La crise énergétique, je pense que ça va rester avec nous, et la vraie question c'est qu'est-ce qu'on a appris de cette crise? Moi, on parlait de Total tout à l'heure, CMA-CGM aussi nous dit 25% de moins sur les coûts de frais. Ce qu'on a appris, c'est qu'on a quand même eu un gros déficit d'investissement en infrastructure commerciale dans le monde, et qu'au premier stress test qu'est Covid de ces infrastructures, on se rend compte que c'est le bordel absolu. Et que les gens qui restent chez eux à faire du télétravail, ils commandent sur Amazon des produits électroniques finis et qu'il n'y a plus de place dans les containers pour les intrants de construction, le matériau, le bois, les trucs comme ça. C'est ça. Et ça, c'est la vraie désorganisation. C'est l'effet Amazon du commerce mondial. Et ça, personne n'en parle, alors qu'encore aujourd'hui, les containers, ils sont pleins de produits électroniques finis et ils sont difficilement remplissables avec des matériaux de construction, des choses dont des intrants B2B pour lesquels les entreprises sont encore un peu en guerre, quoi.
Denis Ferrand, sur les stocks, les chaînes de production.
Oui, je partage complètement le constat de Ludovic. D'ailleurs, il y avait eu aussi dans les commandes, il y avait justement une anticipation des difficultés d'approvisionnement et donc des entreprises qui voulaient être servies à hauteur de 100 pour être sûres d'avoir au moins 50, elles commandaient 200. Ouais. Donc, il y a un moment quand ça se désengorge, et de toute façon, ça se désengorgera. Il faut être logique. Si on anticipe qu'on a devant nous plutôt une récession peut-être aux États-Unis, États-Unis, dans certaines économies émergentes, à un moment ou à un autre, bah, l'offre, elle devient un petit peu plus fluide. Et les contraintes, elles changent de nature. D'une contrainte d'offre, d'une contrainte d'approvisionnement, on bascule beaucoup plus sur une contrainte de demande. Et effectivement, ce qui est très important, c'est de regarder un peu les signes avant-coureurs, les signes de discrimination. J'ai l'impression qu'ils sont quand même vraiment très évidents actuellement. Quand vous regardez, par exemple, les introductions en bourse aux États-Unis, au premier semestre, quasiment zéro. Au premier semestre, on avait fait 300 milliards l'année dernière à la même période. Quand vous regardez les émissions high yield aux États-Unis, donc justement celles qu'évoquait Ludovic et qui voient actuellement leur taux monter, les émissions high yield, c'est 74% de moins que l'année dernière à la même période. Donc cette sélectivité, elle se voit en termes de risque, elle se voit d'ores et déjà dans l'attribution du financement, et donc ça vous crée un blocage de l'activité dans plusieurs activités. Et de toute façon, les récessions, elles viennent toujours par les zones les plus friables. C'est pour ça qu'il est effectivement très important de regarder les économies émergentes qui sont confrontées un peu à cette double ou triple peine avec le ralentissement de la Chine, l'augmentation des conditions de financement et peut-être désormais une récession américaine. Donc c'est là qu'il va y avoir les premiers craquements qui vont se faire. Et c'est vrai qu'il faut regarder aussi l'empreinte du Covid. Les pays, oui, l'Amérique latine n'a pas recouvré son niveau de 2019, mais même les économies asiatiques, en fait, elles ne sont plus du tout sur la trajectoire de croissance qu'elles avaient quand elles faisaient leur plan d'investissement en 2019. Elles n'anticipaient pas un arrêt buffet, elles anticipaient une progression, et donc tous les projets d'investissement se faisaient avec des espérances de rentabilité calées sur des progressions de croissance. Or, pendant les pays d'Asie, on est 5-6% en dessous, non pas du niveau de 2019, elles sont au-dessus du niveau de 2019, mais en dessous du niveau qu'elles escomptaient atteindre en 2022 quand elles faisaient leur calcul en 2019. Et donc ça vous crée des conditions de rentabilité très dégradées pour des entreprises en Asie du Sud, également en Amérique latine.
Laurence Daziano, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à vivre avec une économie mondiale peut-être plus régionalisée, avec un commerce mondial qui se concentre peut-être sur des grands pôles locaux avec des coûts d'entreprise plus élevés. Ça a quand même des conséquences très très grandes et multiples.
Alors, on est passé effectivement pour les entreprises de la mentalité zéro stock, parce qu'on peut tout commander au dernier moment, tout va bien. Ah, maintenant, on fait des stocks, et effectivement, comme dit Ludovic, ben, quand on fait des stocks dans une entreprise, ça coûte. Il y a aussi ce qu'on appelle la reshoring de la production. On essaie d'avoir une production qui soit plus proche du lieu de consommation. Ça, j'attends de voir si ça se fait vraiment, parce que ça entraîne quand même beaucoup de coûts de main-d'œuvre, et puis de mettre en place et de temps. Qu'il faut mettre
il y a ce fameux commerce entre amis dont parlait Jeannette Yellen.
Oui, le friendshoring. C'est très conceptuel. Hein. Tu veux être mon ami? Alors d'accord, je te mets un accord de libre-échange et dans ce cas-là, je te mets zéro tarif.
Mais ça avait déjà commencé. Ouais. Enfin, les accords de libre-échange, ça avait commencé avant et même avant Covid. Hein, parce que si on veut regarder à partir de quand est-ce qu'on commence à avoir de la régionalisation du commerce, ça peut vraiment commencer à partir de Trump quand il dit on va faire la guerre à la Chine et que donc ça commence à réorganiser les flux. Dans l'ensemble, aujourd'hui, les chiffres ne montrent pas qu'il y a eu un arrêt des flux internationaux, parce que comme on consomme beaucoup de matières premières et qu'on les fait venir de beaucoup plus de sources différentes, vu que la source Russie commence à se tarir, au contraire, on voit que les échanges mondiaux, aujourd'hui, ils augmentent. On fait venir, ça bouge de partout. Donc, la régionalisation de l'économie, il y aura une mondialisation qui va changer un petit peu avec des blocs qui vont se constituer. Je suis moins optimiste sur la réouverture de la Chine que Ludovic. Moi, je ne suis pas sûre que la Chine va se réouvrir telle qu'elle était avant Covid au commerce international. Et je pense que là encore, le politique primant sur l'économique, le Covid est aussi un moyen de refermer la Chine, de limiter l'influence occidentale, parce que c'est pas les produits occidentaux et c'est pas les touristes occidentaux qui font une grande différence sur l'économie chinoise, et que au contraire, même avant la crise, il y avait une volonté de faire recentrer la croissance chinoise sur la demande intérieure, la croissance intérieure, et non plus sur les exportations. Et c'est plutôt un groupe chinois asiatique que moi je vois émerger après la crise.
Et puis la rivalité sino-américaine est au maximum là. Oui. Parce que nous on parle de Russie, mais moi j'étais aux États-Unis il y a deux semaines, ils ne parlent que de Chine.
Ce sera le mot de la fin. Chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci d'avoir suivi ces experts du jour. Laurence Daziano, Denis Ferrand, Ludovic Subran. Merci à vous trois. Et on se retrouve pour une prochaine émission lundi.